BFM. Les grands débats, Nicolas Dose.
Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans les grands débats. Deux heures de débat aujourd'hui, très très finance mondiale, vous allez voir, mais essentiel pour l'avenir de la planète tout entière. Deuxième heure de débat, on parlera des banques centrales face à la crise financière. Alors que peuvent faire les banques centrales quand l'argent ne circule plus? C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que l'on vit une crise des liquidités ou une crise du crédit plus grave? En tout cas, il y a une crise de confiance. Voilà la question du jour, hein. On tentera d'y répondre avec nos invités Jean Arthuis, Christian de Boissieu, Philippe Vechter. La BCE va-t-elle relever son taux directeur demain? Aujourd'hui, il est à 4%. Et puis le premier des grands débats qui va nous intéresser d'ici quelques instants, eh bien c'est le FMI. Vous savez, la Grande-Bretagne vient de d'affirmer en fait son soutien à Dominique Strauss-Kahn, c'est tout récent. Un soutien un peu bancal quand même des Britanniques. Et à l'occasion de cette course à la tête du FMI de l'ancien ministre français de l'économie, eh bien on va s'intéresser à l'avenir en fait des jumelles de Bretton Woods. Elles ont vu le jour en juillet 44, Fonds monétaire international, Banque mondiale. Ça fait plus de 60 ans seulement, voilà, les pays qui étaient aujourd'hui autrefois des pays débiteurs tendent à devenir créditeurs. Est-ce que la finance mondiale a encore besoin de pompiers de service? On posera la question à nos invités, mais c'est tout de suite. Bonjour Marjorie Paillon.
Bonjour Nicolas.
Alors voilà, DSK à la conquête du Fonds monétaire international, Nicolas Sarkozy en arrivé, le FMI va-t-il l'exaucer? Concrètement, aujourd'hui Marjorie, comment l'ancien ministre socialiste mène-t-il campagne?
Eh bien en se déplaçant là où les voix sont à prendre, hein, c'est tout simple. DSK a entamé fin août une tournée en Amérique latine, c'est là où il a trouvé un peu de réconfort car il faut dire qu'il est plutôt malmené hein, depuis le début de sa campagne. Adoubé par la quasi-totalité des ministres des finances hein, de la zone euro, c'est finalement le Financial Times qui le premier va mettre en doute sa crédibilité. Et pour compliquer le tout, la Russie envoie en éclaireur le tchèque Joseph Tosovsky, ex-banquier central et membre du Parti communiste, histoire d'avoir son mot à dire. Ceci dit, ce matin, c'est la Grande-Bretagne qui revient sur son jugement hâtif de la candidature de DSK, en indiquant que le français remplit le mieux les critères requis par le FMI. Après avoir enregistré vendredi dernier les candidatures officielles donc de Dominique Strauss-Kahn et Joseph Tosovsky, le conseil d'administration du FMI prévoit de les interviewer à Washington courant septembre, puis de se réunir pour sélectionner le nouveau directeur général. Et selon toute vraisemblance, c'est bien le français qui devrait remporter la manche.
Alors voilà, Dominique Strauss-Kahn, c'est donc le candidat européen, un fameux entente tacite, vous le savez. C'est toujours généralement l'Européen qui prend le FMI, un Américain qui prend la Banque mondiale. Comment Marjorie va-t-il aborder l'inévitable réforme du FMI?
Eh bien, d'abord, il faut dire que ça fait quand même 64 ans hein, que les deux instances existent et la donne économique a bien changé. Les pays débiteurs d'hier, ce sont les pays créditeurs d'aujourd'hui. La Chine en est un exemple probant. Alors, il y a toujours aussi, hein, vous l'avez dit Nicolas, cette incompréhension nord-sud face au choix de la nationalité du directeur général du FMI et du président de la Banque mondiale. Un Européen pour le FMI et un Américain pour la Banque mondiale, est-ce que l'équation devrait être toujours la même? Rien n'en est vraiment sûr. Hein. Jean-Claude Juncker est revenu aussi cette semaine dans le Financial Times de Deutschland, où il déclare que tout le monde est conscient que DSK sera certainement le dernier Européen à devenir directeur du FMI dans un futur prévisible. Alors, futur prévisible, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut s'en reporter là aux propos de Rodrigo Rato, hein, l'actuel directeur général du FMI, qui, lui, ajoute que le FMI fera son possible pour tripler les droits de vote des pays africains, voire même de désigner un directeur adjoint issu d'un pays africain. Alors, ce paysage mondial est bien plus que changeant. Et est-ce que les grandes institutions d'après-guerre ont encore un rôle à jouer dans l'état actuel des choses et surtout de cette même façon? Eh bien, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Anthony Bélanger, chef des informations au Courrier international, Patrick Messerlin, professeur d'économie à Sciences Po Paris, directeur du groupe d'économie mondiale, et puis par téléphone Éric Toussaint, directeur en sciences politiques, président du comité de l'annulation de la dette du tiers-monde Belgique et auteur de Banque mondiale, le coup d'État permanent.
Merci Marjorie, Anthony Bélanger, Patrick Messerlin, Éric Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Éric Toussaint, vous êtes bien avec nous?
Oui, oui.
Allez, comme vous n'êtes pas avec nous physiquement dans ce studio, vous allez avoir les premiers mots. Politicien, professionnel, peu compétent, voilà le jugement des Russes vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn. Le pire quand même, c'est que c'est une thèse qui a été appuyée assez ouvertement par le Financial Times. Comment est-ce que vous jugez cette animosité vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn? C'est DSK qui est visé, c'est la France qui est visée, selon vous?
Ouais, certainement la France, mais le point de vue que je développe, c'est que en fait c'est anodin le débat sur la question de la personne. Le problème fondamental, on l'a mentionné il y a un instant, c'est que de nouveau, on va désigner un Européen et que celui qui est face à lui est un autre Européen. Donc on va là, c'est un choix entre bonnet blanc et blanc bonnet. En fait, la question fondamentale, on l'a aussi posée il y a quelques minutes, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'un Fonds monétaire international ? Quel type d'institution faut-il mettre en place et qui respecterait des normes démocratiques ? Et alors seulement, quel type de personne s'y est-il de mettre à la tête d'une telle institution ? Mais commençons par le débat de fond.
Alors, on va justement, le débat de fond, on va y venir quand même un tout petit mot sur l'actualité qui motive ce débat aujourd'hui, la position de Dominique Strauss-Kahn et puis cette entente tacite qui dure depuis toujours entre Américains et Européens. Patrick Messerlin, quel est votre avis sur cette sous-représentation aujourd'hui, effectivement, des pays émergents qui sont de plus en plus émergents dans l'institution du FMI et le fait qu'un Européen, automatiquement, écope de la fonction de directeur du FMI.
Il est certain que le Fonds monétaire, cette structure est de plus en plus en décalage par rapport à la situation mondiale. Il faudra bien qu'on fasse toute sa place à l'Inde ou à la Chine, y compris tous ces pays émergents. Le problème, je crois, est aggravé par le fait que les deux derniers directeurs généraux n'ont pas été, d'une qualité exemplaire. Or, sont été deux Européens. Et donc, on peut comprendre qu'effectivement, M. Strauss-Kahn paye à la fois le problème de fond de l'Européen et le problème plus circonstanciel des deux précédents directeurs généraux. C'est le directeur général adjoint qui a fait fonctionner la maison.
Et c'est Britanniques qui soutiennent le DSK un peu du bout des lèvres quand même. Se fait-il que les Britanniques si proches de nous, même s'ils sont hors zone euro, aient tant de mal à faire corps un peu avec les Européens ?
C'est peut-être parce qu'ils comprennent mieux le reste du monde et qu'ils ont mieux compris les signaux de Pékin ou de New Delhi. Et je crois que c'est une affaire importante pour
Anthony
eux.
Bélanger.
D'abord, c'est de bonne politique de la part des Britanniques qui n'ont jamais été très, très solidaires de manière générale avec le reste de l'Europe, qui ont toujours eu à cœur de montrer leurs différences. Effectivement, c'est de bonne politique parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème, que l'Inde, la Chine, les BRICS, vous savez, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.
Les fameux quatre.
Les fameux quatre commençaient à ruer dans les brancards. Et ils se sont dit, il est urgent attendre. Après tout, les Européens n'ont pas à se précipiter. On peut regarder à droite, à gauche et finalement se rallier après avoir beaucoup réfléchi à la vie générale. Donc c'est globalement ce que font les Britanniques et ce qu'ont fait d'ailleurs les Russes aussi. Au fond, en présentant M. Tosovsky, ils ont aussi fait œuvre de bonne politique. Ils savaient très bien que l'Europe et les États-Unis ensemble représentent plus de 40% des droits de vote au sein du FMI, qu'il n'y a pas donc de vrai suspense. Par contre, ils ont voulu montrer qu'eux aussi avaient à cœur l'intérêt des plus petits pays ou des pays émergents dont ils sont d'ailleurs. Et au fond, ils ont présenté M. Tosovsky pour deux raisons. La première, pour diviser un peu mieux l'Europe, parce qu'au fond, c'est un Européen, M. Tosovsky.
C'est réussi, on peut dire que ça fonctionne.
Même si c'est un nouvel Européen, selon la nomenclature de M. Rumsfeld. C'est un Européen, et un Européen d'ailleurs avec des lettres de crédit importantes. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour son pays. Et donc, ils ont voulu à la fois diviser le camp européen, montrer qu'eux aussi pouvaient avoir un autre candidat européen, et en même temps aussi se signaler comme un acteur important de la politique financière internationale.
Alors, à la sortie de la guerre, le monde libre comptait 44 nations. C'était effectivement relativement peu. Tout a changé. On peut se demander aujourd'hui, Anthony Bélanger, l'économie mondiale a-t-elle en fait besoin, tout simplement, avant de savoir si FMI, Banque mondiale sont adaptées, l'économie mondiale a-t-elle besoin d'un pompier, de service qui est là pour faire de la régulation ?
Alors, pour bien montrer la différence, c'était 44 en 1944, c'est bien de le dire. Ouais. On est à 184 pays aujourd'hui, membres du FMI. S'il y a tant de pays au Conseil du FMI, c'est que le FMI a tout de même une certaine importance. C'est tout de même 300 milliards de dollars que le FMI est capable de mobiliser, plus 50 milliards de crédits, je crois. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Pour vous donner un exemple, la Banque Centrale Européenne, dernièrement, vous savez, lors de la crise financière, a mis sur la table quelque chose comme 200 à 260 milliards d'euros. Ensemble, ça fait à peu près 500 milliards d'euros avec l'ensemble des banques centrales, ce qui veut dire que ça représente aussi... Voilà, on a à peu près le même niveau d'équilibre. Autrement dit, le FMI peut effectivement, et l'a déjà fait, dans des situations compliquées, plusieurs fois dans son histoire, éteindre l'incendie. C'est ce qui a été le cas. Donc, moi, je pense que le FMI est une institution indispensable.
Même question, Éric Toussaint, avant de marquer une première pause dans ce grand débat. Est-ce que la finance internationale peut aujourd'hui se passer d'un gendarme, selon vous ?
Non, pas du tout. Mais le FMI n'est pas du tout le bon gendarme. Il faudrait une institution ou un réseau d'institutions permettant de faire face aux déséquilibres monétaires et financiers. Il faudrait donc une institution de régulation ou des institutions de régulation. Personnellement, je travaille beaucoup en Amérique latine à la constitution d'une banque du Sud qui pourrait être lié à un fonds monétaire du Sud, en tout cas au niveau d'une majorité de pays de l'Amérique latine. On pourrait imaginer la mise en place de différents fonds monétaires continentaux ou de grandes régions reliés entre eux avec des accords. Et respectant dès lors des règles de fonctionnement démocratique.
C'est l'idée d'ailleurs d'Hugo Chavez. Un mot, Anthony Bélanger, il nous reste moins d'une minute.
Non, ce qui est étonnant, c'est que c'est la mission du FMI, après tout, dans sa constitution, c'est exactement la mission du FMI que de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière. C'est ce pourquoi elle a été créée. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle le fait au travers de politiques qui sont extrêmement contestées et qui ne permettent pas forcément aux pays en question de s'y reconnaître, et non seulement dans sa gouvernance, mais aussi dans la manière dont lui sont imposées des politiques macroéconomiques. Économique. Donc il est clair qu'il y a un problème de redéfinition des politiques du FMI, mais pas tant de l'importance d'un gendarme international comme le FMI.
L'avenir des jumelles de Bretton Woods qui ont vu le jour en juillet 44, on y revient dans un très court instant.
BFM, c'est un point bourse tous les quarts d'heure. New York, Londres, Paris, Tokyo. Avec BFM, suivez quart d'heure l'évolution des marchés sur les principales places boursières. BFM, un point bourse tous les quarts d'heure. De l'ouverture à la clôture, de Wall Street à Paris, de Tokyo à la City, acheter, conserver, vendre, toute la bourse, tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM.
Créer,
reprendre,
transmettre votre entreprise.
Formation et conseils gratuits, près de chez vous.
caravanedesentrepreneurs.com.
BFM, la radio de l'écho.
En direct des marchés financiers, Sébastien Coinon après 1h15 de cotation à Paris.
Eh bien, la bourse de Paris repart à la baisse, Nicolas, moins 0,4%, 5650. Paris encore pénalisé par le titre Suez qui perd actuellement 1,3% et Lanterne Rouge, comme hier, là encore, Peugeot, moins 2,4%, on revient à quasiment 58 euros. Une première indication chiffrée sur la crise du fameux subprime, l'étude réalisée par Thomson Financial révèle qu'au mois d'août, l'activité de fusion-acquisition est tombée à son plus bas niveau depuis plus de 2 ans. Le traumatisme devrait cependant rester limité. Pour David Bernard, responsable banque d'affaires et private equity chez Thomson Financial, on devrait même connaître un regain d'activité dans les toutes prochaines semaines.
Je pense qu'il y aura un regain d'activité en septembre parce que les gens s'ajustent à la crise. Et on voit qu'il y a d'autres opérations qui repartent. Donc, par exemple, les opérations de fusion-acquisition par les entreprises, par les corporates, contrairement aux acteurs financiers, sont reparties de plus belle, par exemple aux États-Unis, où ils s'aperçoivent que la porte est ouverte maintenant pour faire des opérations qui n'étaient pas forcément évidentes il y a quelques mois. Donc il y a une espèce de mouvement fondamental, mais on voit que sur certaines activités, comme les opérations de titrisation, le marché est très difficile en ce moment, il n'y a quasiment plus d'émissions. Et sur les opérations de buy-out, les plus grosses opérations deviennent très très difficiles. Il y a une espèce de recentrage sur le marché des opérations moyennes.
David Bernard est responsable banque d'affaires chez Thomson Financial avec Jérôme Libeskind. Je vous rappelle la tendance négative ce matin à la Bourse de Paris, à l'instant le CAC, moins 0,35%.
Un point sur les marchés boursiers tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
La suite des grands débats à BFM, 10h16.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Suite de ce grand débat, regard ce matin sur la crise d'identité des deux institutions financières les plus puissantes du monde que sont le FMI et la Banque mondiale, héritage d'une époque révolue où les États-Unis et l'Europe dominaient totalement la planète. Pour en parler, Anthony Bélanger, chef des informations au Courrier international, Patrick Messerlin, professeur d'économie à Sciences Po Paris, directeur du groupe d'économie mondiale, également par téléphone Eric Toussaint, docteur en sciences politiques, il est président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et son dernier ouvrage s'appelle Banque mondiale, le coup d'État permanent aux éditions Sileps, paru en juin 2006. Alors Patrick Messerlin, vous vouliez dire un mot sur le rôle du FMI encore.
Oui, ce qui est important, c'est que le FMI est une organisation mondiale et ça sera toujours un avantage considérable par rapport aux organisations régionales. Le fonds asiatique a un problème sérieux. Le fonds sud-américain sera extraordinairement difficile à faire fonctionner. La BERD que nous avons connue en Europe n'a pu trouver sa place qu'en faisant autre chose que la Banque mondiale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un pompier, en quelque sorte, doit répartir les risques. Et qu'il est beaucoup mieux que le pompier vienne de Washington plutôt que d'une capitale qui est très proche de la vôtre. Finalement, il est plus neutre, il apparaît comme le consensus mondial. Il donne un message qui, même lorsqu'il ne passe pas bien, passe plus facilement que si c'est le message qui vient de votre voisin.
Anthony Bélanger.
Vous imaginez par exemple un fonds latino-américain dont monsieur parlait tout à l'heure, avec comme nation abonderie, celle qui apporterait le plus d'argent, le Brésil ou même le Venezuela de Hugo Chavez, ce serait pas simple forcément au conseil d'administration de régler les problèmes par exemple entre la Colombie qui penche plutôt à droite, le Chavez qui penche plutôt à gauche, la Bolivie qui penche plutôt du côté de monsieur Chavez. Les interférences politiques seraient probablement très importantes pour distribuer de l'argent.
D'ailleurs, Hugo Chavez est quand même toujours très prudent. Il parle beaucoup, mais il
Hugo Chavez, prudent, vous trouvez?
Non, mais je veux dire, il a fait peu vis-à-vis du FMI. Il a dit beaucoup de choses, mais pour l'instant...
Exact.
Si vous me permettez...
Éric Toussaint, allez-y.
Donc, premièrement, je pense qu'il faut faire un bilan précis du Fonds monétaire international. Il avait été mis en place pour assurer la stabilité et ça n'a pas fonctionné à partir de 71 quand... les accords monétaires de Bretton Woods ont été remis complètement en cause de manière unilatérale par les États-Unis. Le FMI a retrouvé une seconde vie grâce à la crise de la dette qui a explosé en août 1982 en devenant une sorte de gendarme au service des puissances les plus riches de la triade, donc Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon, pour imposer l'ajustement structurel qu'on a appelé plus tard consensus de Washington aux pays endettés.
Voilà.
Et le bilan de ce gendarme, il est clair. Il n'y a pas eu une amélioration de la situation économique des pays qui ont appliqué les mesures recommandées par le Fonds monétaire international, ni d'ailleurs les mesures recommandées par la Banque mondiale, réussissent beaucoup mieux des pays qui n'appliquent pas ces recommandations. Quand on a appliqué les recommandations, comme lors de la crise du sud-est asiatique, les pays qui l'ont appliqué se sont retrouvés beaucoup plus mal. Et un pays comme la Malaisie, pour laquelle j'ai pas spécialement de sympathie au niveau du régime politique, mais qui a décidé de ne pas appliquer les mesures du FMI, s'en est sorti beaucoup mieux.
C'est la vieille ancienne.
Maintenant, sur l'avenir, soyons sérieux. Dire que le FMI a des moyens importants aujourd'hui pour intervenir, c'est pas tout à fait vrai. Les fonds de pension américains ont des moyens beaucoup plus importants que le Fonds monétaire international. Et surtout, la Chine a 1300 milliards de dollars. On parlait tout à l'heure de 300 milliards. Et je mets en cause que le FMI soit capable de mobiliser lui-même 300 milliards de dollars. Mais la Chine, elle, si elle le voulait, et elle l'a fait entendre il y a un mois, à Henry Paulson, secrétaire aux finances des États-Unis, la Chine, mais elle ne va pas le mettre en pratique, mais serait parfaitement capable de déstabiliser encore plus les marchés internationaux si elle se mettait à vendre des bons du Trésor. Elle ne va pas le faire, on n'a pas le temps de développer ici maintenant.
Voilà.
Mais ce que je veux dire là, dernier argument, quand on nous indique, oui, mais s'il y avait Chavez en débat avec Lula, mais enfin... Soyons sérieux, alors il faut dire quoi? Que c'est beaucoup mieux la situation présente ou c'est simplement les États-Unis et les Européens qui se mettent d'accord sur les politiques à suivre et les 185 nations membres suivent quelques nations dominantes? Non, le bilan est négatif. La démocratie, ce n'est pas quelques grandes puissances qui décident pour les autres. Quand je parlais d'un réseau de fonds monétaires locaux, ils devraient être reliés ensemble et pourraient à la limite être chapeautés par le Conseil économique et social des Nations Unies. Je suis à fond pour des institutions multilatérales mondiales.
D'accord.
Mais le FMI est une institution despotique aux mains de quelques puissances.
Ça ne plaide pas forcément pour la constitution de fonds régionaux, mais simplement pour la réforme du FMI. Effectivement, il n'y a pas de démocratie au sein du FMI quand on sait par exemple que les États-Unis ont un droit de veto automatique avec 17,5% des droits de vote. Ils peuvent tout simplement bloquer toute décision. Toute décision FMI doit être prise par un minimum, d'une majorité qualifiée de 85%
Exactement.
Des droits de vote. Bon, on le sait ça. Donc on pourrait. Effectivement, l'enjeu, c'est la réforme du FMI.
Cela dit, monsieur. La minorité de blocage des États-Unis.
Oui.
Cette réforme est impossible.
Elle est impossible pour l'instant. C'est ce qu'a priori Dominique Strauss-Kahn promet. C'est une réforme du FMI qui permettrait, enfin en tout cas, on pourrait demander aux États-Unis effectivement de débloquer ce fameux veto.
Il faut le modèle de l'OMC, un pays une voix dans ces conditions.
Le problème, c'est que personne ne demande la démocratie au sein du FMI. Même les pays comme les BRICS, les pays concernés ou ceux qui souhaitent récupérer plus de pouvoir ne veulent pas de démocratie au sein du FMI. Ils veulent simplement compter plus. Ils veulent simplement parce qu'ils estiment eux représenter la partie pauvre du monde. Donc ils ne réclament pas, ils réclament un juste partage, un meilleur partage des droits de vote, mais certainement pas la démocratie au sein du FMI. Ils demandent que le prochain président, le prochain directeur du FMI ne soit plus élu selon cette espèce de vieille tradition qui dure depuis 60 ans et qui fait qu'un Européen effectivement à chaque fois est élu. Mais ils ne demandent pas en soi la démocratie.
Alors Patrick Messalin, elle est possible cette réforme du FMI?
Oh oui, bien sûr, elle est envisagée depuis longtemps. D'ailleurs, elle est envisagée y compris par le personnel du Fonds monétaire international. Cette présentation du FMI à la botte des Américains ou des Européens, à mon avis, n'a jamais existé. J'ai été membre de la Banque mondiale et je sais combien le staff de la banque ou le staff du Fonds monétaire lutte contre les États membres, contre leur conseil d'administration. En 1994, lorsqu'il y a eu la crise du Mexique, le Fonds monétaire avait tiré la sonnette d'alarme, il l'a tiré longtemps, les Américains n'ont pas compris, mais quand même, comme la sonnette avait été tirée depuis longtemps, au bout d'un certain temps, les Américains ont compris. Et à ce moment-là, on a dit c'est la faute du FMI, il n'a pas agi longtemps. Il est très commode, ce FMI. Hein. Mmh. Maintenant, si vous avez un autre moyen de résoudre la crise asiatique que par celles qui ont été utilisées par le FMI, il y a peut-être des images ou des photos qui ont été désagréables, mais si vous avez pu résoudre la crise coréenne autrement que par des moyens du FMI, surtout dites-le, parce que vous aurez un prix Nobel d'économie.
Ouais, je ne serai évidemment pas le seul à le Éric dire. Poussin. Joseph Stiglitz l'a dit, il a eu le Nobel d'économie. Et de nombreux
pas sur ce point-là. C'est pas sur ce point-là qu'il a eu le prix Nobel d'économie. Faites attention.
Non, bien sûr.
Faites attention à ce que vous dites.
Vous venez juste de mentionner et vous aurez le prix Nobel d'économie.
Oui, vous devriez monter les mécanismes par lesquels on rétablit une situation qui est devenue explosive. C'est ce qui risque d'arriver en Chine. Eh bien, tout le monde a peur. La précédente déléguée adjointe, manager adjointe du Fonds monétaire international était Anne Kruger. 7 mois ou 1 an avant l'explosion de la Corée, elle a écrit un article avec un monsieur Yo. Et cet article annonçait l'explosion imminente. C'est ça le rôle du FMI.
Donc le FMI, si vous voulez bien, a joué un rôle de pompier pyromane. Il a
c'est ce que dit Evo Morales. Hein.
Il y a manifestement là, c'est extrêmement intéressant ce débat, parce que nous partageons peut-être quelques points de vue communs, qui est la volonté de maintenir des institutions mondiales. Et donc pas de repli national ou régional, mais visiblement nous avons des divergences profondes sur le bilan. Et par exemple sur le bilan du FMI au Mexique, notre collègue qui vient de parler présente le FMI de manière positive, alors qu'il était dirigé à ce moment-là par Jacques de la Rosière, un Français, encore un Français. Le FMI n'a absolument pas aider ni la Banque mondiale, le Mexique à se préparer à la crise. Je cite dans le bouquin que vous avez mentionné.
Très très vite, il faut marquer une pause, Eric Toussaint.
Permanent justement le rôle extrêmement négatif du FMI et de la Banque mondiale. Et oui. Idem dans la crise asiatique. On pourrait donc parfaitement, quand vous dites les pays du Sud, je vais terminer par un argument. Veulent un peu plus de représentation. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Attention. Oui. J'ai participé à une réunion ministérielle en Amérique latine le 3 mai à Quito.
Il faut clore, Eric Toussaint, là, on va reprendre après.
Oui.
Il faut clore, on va reprendre après. Je vous redonne la parole d'ici quelques minutes. On doit marquer impérativement une pause et on se repose cette question de la mondialisation libérale. Rend-elle obsolète les organisations financières internationales? C'est à suivre dans les grands débats.
Chaque matin à 6h50 et le soir à 19h55, retrouvez Compétences, la chronique emploi de BFM. Quel que soit votre secteur d'activité, découvrez chaque jour de nouveaux postes à pourvoir avec MediaRH.com, le premier site d'emploi qui donne au quotidien la parole aux entreprises qui recrutent.
BFM, la radio de l'écho partout en France, à Clermont-Ferrand sur 107 et à Grenoble sur 100.8.
La France est une terre baignée des dieux. Il y fait bon vivre, mais il ne faut pas que l'on vous prenne 90%, voire 130%, voire 200% de ce que vous avez gagné pour certains.
BFM à Cannes sur 104.4 et à Lille sur 96.4. Toutes les fréquences de BFM sont sur le 3667, 34 centimes la minute, ou sur radiobfm.com. BFM, la radio de l'écho, où vous voulez, quand vous voulez.
BFM, la radio de l'écho.
Les marchés financiers, 10h27, c'est avec Guillaume Sommerer. Bonjour Guillaume.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le CAC 40 recule ce matin, moins 0,2% actuellement, 5660 points. Les autres places européennes légèrement dans le rouge également. On retrouve, comme chaque jour, Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Alors un flex de prudence ce matin encore.
Oui, mais en fait, le marché évolue depuis vendredi matin entre les mêmes limites. Il y a donc pas mal d'hésitation. Alors si le marché reste vulnérable, trop de monde le sait. Les opérateurs ont pris des précautions, ce qui fait qu'il n'y a pas de vendeurs potentiellement importants à l'instant T. Le marché peut donc résister, évoluer un moment entre 5004 et 5008 par exemple, tant qu'on évolue sinon au-dessus de 5006 futur septembre, je considère qu'il y a rien de nouveau, on consolide la reprise technique et je déclencherai une première alerte baissière sous 5590, niveau à surveiller.
Allez, zoom sur une valeur, Néopost, en repli actuellement de 0,3%, mais enfin elle a progressé un peu jusqu'à présent, mais maintenant ça y est, elle est en repli.
Oui, tout à fait, alors le titre est quand même sur des plus hauts et a gagné 10% depuis la mi-août. Néopost a publié un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre en ligne, confirme les objectifs de croissance annuels, les avis sont positifs avec des recommandations majoritairement à l'achat et des objectifs de cours vers 130 €. On note de bonnes perspectives, court moyen terme, une bonne visibilité, une poursuite de l'amélioration des marges. Ça serait donc le genre de valeur à acheter sur d'éventuels replis. On a Iliad qui recule un peu, 1,7 à 69,20 après la conférence d'hier, mais les avis sont également plutôt positifs sur la valeur.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil. Le CAC en repli, moins 0,1 et Néopost, malgré ses bonnes perspectives, n'échappe pas à la tendance.
Pour suivre en temps réel les fluctuations des marchés, 36,67, le numéro boursier de BFM Radio, 34 centimes la minute.
BFM, il est 10h29, l'essentiel de l'information, Sébastien Coinon.
La police allemande a interpellé dans la nuit 3 personnes soupçonnées de terrorisme. Une radio locale affirme qu'il préparait des attentats à l'explosif contre l'aéroport de Francfort. Bush voit des progrès en matière de sécurité et de situation politique en Irak. George Bush qui promet de ne pas céder malgré les pressions pour retirer les troupes américaines du pays. Et c'est dans ce contexte qu'un rapport de la Cour des comptes américaine vient justement de conclure que le gouvernement de Bagdad n'a pas atteint 11 des 18 objectifs fixés par le Congrès américain en termes de progrès militaire et politique. Au Nicaragua, les pertes sont considérables après le passage de la tempête Félix. On dénombre au moins 4 morts, plusieurs disparus, 38 000 sinistrés et plus de 5 000 maisons détruites selon un représentant du service d'aide de la Commission européenne. L'acheminement des secours dans la région pose problème. Félix qui menace désormais la capitale du Honduras. Dominique de Villepin multiplie les interventions dans les médias depuis le début de la semaine. L'ancien Premier ministre explique aujourd'hui à la radio que Nicolas Sarkozy n'a pas été victime d'une machination politique dans l'affaire Clearstream. Le dossier a été reconstruit pour défendre cette thèse, martèle-t-il. Et puis Tony Parker en vedette, le leader des Spurs de San Antonio a permis hier soir à la France de battre l'Italie 69 à 62 au championnat d'Europe de basket.
BFM, il est 10h30. Le journal de l'économie, Sébastien Coinon.
Le dossier Suez-GDF encore dans l'actualité. Selon l'AGFI, un renforcement des intérêts publics dans le nouvel ensemble via la Caisse des dépôts et consignations est envisageable. Autre évolution possible, selon le quotidien financier, le pacte d'actionnaires de Suez Environnement pourrait être renforcé. Le journal évoque notamment la banque espagnole Caixa. Faut-il enterrer la TVA sociale? Le rapport Besson sur la question est une nouvelle fois reporté à la semaine prochaine. À croire que le sujet devient tabou, une possibilité que refuse Jérôme Chartier, député UMP du Val-d'Oise.
Je crois qu'on peut d'abord lancer le débat et qu'on peut surtout en parler avant, si vous voulez, de régler le sort à la TVA sociale et je dirais sur tout transfert d'assiette, c'est-à-dire le principe qui consiste à baisser les charges sociales pour augmenter une autre fiscalité. Moi, je crois qu'au moins on peut ouvrir le débat et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut en parler. Le 24 septembre, lorsque je vais rendre mon rapport avec l'équipe qui a bien voulu travailler avec moi, on va explorer des pistes. Moi, je veux qu'on puisse en parler de ces pistes. Moi, j'ai envie qu'on puisse ouvrir ce grand débat sur les charges sociales et sur cette fiscalité. Aujourd'hui, il y a une concurrence fiscale mondiale, et notamment européenne. Bon, bah écoutez, on ne peut pas quand même passer à côté, simplement parce qu'il ne faut pas parler de sujets dits tabous.
Le député UMP du Val-d'Oise, Jérôme Chartier, était l'invité ce matin de Stéphane Soumier. Total revoit ce matin ses prévisions de production à la baisse jusqu'en 2010. Paradoxalement, le titre est recherché en bourse car le pétrolier annonce dans le même temps qu'il va verser à ses actionnaires un acompte sur leur dividende 2007 d'un euro par action, 15% de plus par rapport à l'acompte versé en novembre dernier. Unilever avait annoncé son plan social début août. Le groupe devrait supprimer de 10 000 à 12 000 emplois en Europe, soit un quart des effectifs sur le continent. De 20 à 25 usines seront restructurées, voire fermées. Information communiquée par les syndicats qui restent à confirmer. Unilever qui souhaiterait par ailleurs vendre les fromages boursins et étendre à l'Europe sa collaboration avec l'américain Pepsi. Munich Re évalue entre 1 et 2 milliards de dollars le montant total des dégâts assurés engendrés par le cyclone Dean qui a frappé les Antilles et le Mexique. Le réassureur allemand estime que ses propres charges s'élèveront à un montant entre 50 et 100 millions d'euros. Le blé dépasse désormais les 8 dollars à Chicago, du jamais vu. Des pays comme l'Inde achètent bien plus que prévu pour assurer leur sécurité alimentaire. Côté offre, la sécheresse en Australie et en Argentine menace les récoltes de ces deux gros producteurs. Et puis Mattel qui rappelle à nouveau des jouets, c'est le troisième rappel de l'été. Il porte pour l'essentiel sur les accessoires de sa poupée vedette Barbie. Au total, plus de 800 000 pièces sont concernées par cette mesure, dont les deux tiers aux États-Unis. On reste aux États-Unis avec cette grève des chauffeurs de taxi donc à New York. Ils protestent contre l'installation dans leur voiture de navigateurs GPS destinés à enregistrer tous leurs déplacements. Une grève qui devrait durer jusqu'à demain soir. 10 000 chauffeurs new-yorkais devraient l'observer. Merci d'écouter BFM. Il est 10h33.
BFM, un journal de l'économie toutes les demi-heures.
Et nous retrouvons Nicolas Dos.
BFM, les grands débats, Nicolas Dos.
Au moment où Dominique Strauss-Kahn lorne la tête du FMI, le fonds est pour la première fois cette année en déficit d'exploitation. Ce fonds a-t-il encore un sens? Idem, même question du reste pour la Banque mondiale que nous posons aujourd'hui avec Anthony Bélanger, chef des informations au Courrier international. Patrick Messerlin, professeur d'économie à Sciences Po à Paris et directeur du groupe d'économie mondiale. Et avec nous en ligne Eric Toussaint, docteur en sciences politiques, président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Il a écrit Banque mondiale, le coup d'état permanent aux éditions Sileps. Comme promis, je vous redonne la parole Eric Toussaint, vous êtes en ligne avec nous. Alors vous qualifiez le Fonds monétaire international de pompier pyromane. À côté de ça, les périls existent toujours, les crises financières menacent encore. Il y a toujours un milliard de pauvres dans le monde qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Et l'intensification des échanges exige aussi des besoins de régulation. Comme disait Patrick Messerlin, il y a quand même des moments, si on n'avait pas eu le FMI, on se demande ce qu'on aurait eu sous la main.
Donc nous sommes d'accord sur la nécessité d'institutions mondiales, multilatérales, qui permettent d'assurer la stabilité financière, la stabilité des échanges, la stabilité d'échanges. Donc là, il y a un point d'accord. Je disais, dans la mesure où il n'est malheureusement pas possible de réformer le Fonds monétaire international, car les États-Unis ne sont pas prêts de renoncer à leur minorité de blocage, il faudrait un autre gouvernement des États-Unis. Ça viendra peut-être un jour, mais ce n'est pas nécessairement pour demain. Donc, il est imaginable, et c'est ce qui est en train de se faire en pratique, et c'est ce que je mentionnais il y a un instant,
oui.
Dans différentes régions du monde, on discute de la mise en place de fonds monétaires régionaux. Mmh. Personnellement, je suis associé à la discussion de la création d'une banque du Sud en Amérique latine et d'un fonds monétaire de stabilisation. L'idée est la suivante.
L'idée d'Hugo Chavez.
Ce n'est pas simplement d'Hugo Chavez, oui. C'est de Néstor Kirchner, le président argentin, Rafael Correa, le nouveau président équatorien, Evo Morales, le président bolivien. Et même le Paraguay et l'Uruguay sont associés, et le Brésil, qui est évidemment un élément tout à fait clé. Si on prend l'Amérique du Sud, quelques autres pays pourraient s'associer si on intégrait la Caraïbe et l'Amérique centrale.
Donc vous croyez à des nouvelles institutions collatérales?
En tout cas, elles se discutent. Des réunions ont lieu entre des ministres
voilà.
des finances.
Alors, des réunions certainement. Par exemple, il y a une idée qui traîne depuis assez longtemps, qui serait tout simplement de créer un fonds régional asiatique. Il a suffi que le Japon dise qu'il abondait ce fonds de 100 milliards et qu'il s'était plutôt d'accord.
Il y a la Banque asiatique de développement, déjà.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils se tétanisent l'un l'autre. C'est-à-dire la Chine refuse que le Japon, abonde trop ce bonde parce qu'elle pourrait, elle aurait peut-être soit du mal elle-même, soit qu'elle a envie de contrôler. Parce... Si ça marche de la même manière que le FMI, c'est-à-dire que le pays qui apporte de l'argent, eh bien, a autant de droits de vote, effectivement, chacun va vouloir apporter à suffisamment pour que politiquement, il puisse contrôler les fonds régionaux en question. On voit bien ce qui se passe en Asie, où ces fonds régionaux, avant même de naître, ou avant même d'avoir été abondés, posent des problèmes, et des problèmes qui sont politiques.
Oui, vous posez tout à fait, c'est un problème, et donc je voudrais indiquer que dans la discussion en Amérique latine actuellement, elle est en cours, l'idée est la suivante. Les pays d'Amérique latine, grosso modo, disposent de 300 milliards de dollars de réserves de change. Pourquoi ne pas mettre une partie de ces réserves de change en commun pour avoir un fonds monétaire de stabilisation?
C'est
mettre
le FMI selon Bretton Woods. C'est exactement ce qui avait été décidé à Bretton Woods en 1944.
Essayer de mettre en place une unité de compte commune pour leurs échanges. Quelles constatations font-ils? Aujourd'hui, la majeure partie de leur réserve de change est en bons du Trésor des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils prêtent aux États-Unis leur réserve de change à un taux d'intérêt un peu supérieur à du 4%, et dans le même temps, ils émettent des titres de leur dette publique à du 8 ou du 9 ou du 10%. Donc ils pourraient adopter une autre politique, utiliser une partie de leur réserve de change pour un fonds de stabilisation monétaire, et d'autre part pour créer une banque du Sud de développement, où ils prêteraient, où ils se prêteraient entre eux une partie des montants qu'ils ont réunis pour à des taux d'intérêt tout à fait intéressants en fonction de priorités qu'ils auraient définies ensemble. Alors vous avez posé un élément clé dans le débat, c'est comment faire la pondération des droits de vote. Et là, est sur la table la discussion en Amérique latine, le principe de un État, une voix,
le principe de l'OMC,
le principe des Nations Unies et le principe de l'OMC.
Oui.
Et donc, effectivement, ça c'est un élément fondamental, c'est pas le seul. Il y a une philosophie adoptée dans les statuts. Mais imaginez, s'il vous plaît, un instant, et rendons public le fait qu'à différents points de la planète, en Asie en tout cas, et en Amérique latine, on discute de cela de manière tout à fait sérieuse.
Patrick Messerlin, réaction.
Oui, discussion, ça c'est tout à fait d'accord. Maintenant, une voix, un pays, une voix, à l'OMC ça marche, parce qu'à l'OMC, on n'a pas besoin de décision instantanée. On n'a pas une crise financière ou une crise OMC du jour au lendemain. Regardez l'allure à laquelle vont les négociations de l'OMC. Il aura fallu pour le Doha Round 7 ans si tout va bien.
C'est pas terminé.
Donc, si vous avez une crise, vu le jour début
2001.
Bon, s'il vous faut 7 ans pour prendre une décision après qu'une crise financière se soit développée, je crois que le problème n'est pas terminé.
Patrick Messerlin, est-ce que vous croyez à ces fonds régionaux? La Chine et l'Inde participent déjà au mécanisme de Chiang Mai qui a vu le jour en mai 2000. Il y a 80 milliards de dollars qui peuvent aller sur le compte d'un État en faillite.
Oui, mais ça, c'est ce que M. Bélanger a très bien souligné. Je veux dire, ça va être très limité parce que les rivalités politiques sont considérables. En fait, entre l'Inde et la Chine, entre le Brésil et le Venezuela, tout ceci sont, dès qu'il y a une rivalité entre pays, si ces pays sont proches, le processus de décision est bloqué. Et le Fonds monétaire, en tous les cas une institution monétaire à Washington ou ailleurs, mais mondiale, permet de dégager les aspects politiques autant qu'on peut le faire.
Regardez par exemple les associations régionales, vous parliez de l'Amérique latine comme le Mercosur ou d'autres.
Parce que ce sont des
associations qui ont été constituées il y a quelques années, il y a même plusieurs années, les pays sont rentrés, sont sortis, et au fur et à mesure des aléas politiques, eh bien ils entraient, ils sortaient. En fait, ces associations, contrairement à l'Union européenne, elle qui s'est fondée sur un traumatisme, ce qui est la Seconde Guerre mondiale, n'ont aucune raison de s'entendre sur des problèmes qui sont autrement plus graves et autrement plus pressants que les problèmes éventuels d'une crise financière qui pourrait avoir lieu dans la région. Et ces associations régionales ne fonctionnent pas. Elles n'ont jamais réussi à aller au-delà d'une simple association de quelques rencontres par an, sinon tous les deux ans, pour se mettre d'accord sur rien.
Alors Patrick Messerlin, un mot, et Eric Toussaint juste après.
Juste pour revenir sur ce point, l'Europe nous aveugle. Nous avons bénéficié d'une chance extraordinaire qui a été, la Seconde Guerre mondiale qui nous a mis d'accord. Ça, c'est une malchance extraordinaire. Mais il y a une chance extraordinaire, c'est que toutes les grandes puissances européennes avaient le même poids. La France, l'Allemagne, l'Italie, grosso modo, même population, même PNB. Il n'y avait pas de dominant possible. Ce n'est pas le cas en Asie. La Chine est un dominant absolu avec l'Inde. Ce n'est pas le cas en Amérique latine avec le Brésil. Dans ces régions, il y a une dissimilarité, une dissymétrie énorme qui fait que le problème politique devient dominant.
Allez-y, Eric Toussaint, vous pouvez réagir.
Oui,
effectivement.
Est-ce que
ces petits FMI ont une chance d'exister et d'être efficaces?
Écoutez, c'est très difficile, mais là, mes collègues là, font preuve d'un aveuglement et d'une surdité qui est impressionnante. Il faut quand même regarder le monde d'aujourd'hui en pleine évolution.
Le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a des pays débiteurs qui deviennent créditeurs, principalement.
Là, c'est très clair. Les pays du Sud, pour le moment, sont des créanciers nets, avec 3000 milliards de réserves de change déposées en bonne partie en bons du Trésor des États-Unis et sous d'autres formes de dépôts dans les banques du Nord. Ils sont des créanciers nets. Bon. Ils sont inconscients de leur force. Alors, je peux comprendre que des Européens n'aient pas envie, mais c'est une vision tout à fait à courte vue, que les pays du Sud se réveillent et soient conscients vraiment de leur potentiel et de l'intérêt qu'on aurait à avoir une Europe stable, unifiée, je dirais avec une autre philosophie que la philosophie néolibérale actuelle, avec d'autres blocs régionaux eux-mêmes forts. Alors il y a des difficultés dans la constitution de ces blocs régionaux, c'est évident, mais franchement, vous ne voyez pas l'évolution dans le dialogue entre différents chefs d'État, la volonté de peuples, de régions entières de dépasser les divisions.
Non mais vous,
qu'on a, qu'on, dont on s'est rendu
c'est une,
compte.
C'est une très belle idée, mais prenez par exemple la Chine. Enfin, on peut tout de même pas dire que la Chine soit un exemple de démocratie avec lequel on peut discuter aimablement autour d'une table pour savoir si
absolument.
Oui ou non elle va dépenser ses 500 ou 600.
Il faut reprocher au gouvernement des États-Unis et de l'Union européenne de dialoguer sans aucun problème avec le gouvernement chinois. Ça, c'est clair.
Vous disiez tout à l'heure, par exemple, que la Chine pourrait employer ses bons du Trésor américain pour déstabiliser l'économie
et
américaine.
Elle se tirait
une balle dans le pied. C'est
voilà,
l'économie américaine qui sert à subventionner, ou du moins à subventionner la croissance chinoise. Donc, évidemment, elle ne va pas le faire. C'est un je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Absolument.
Qui aboutit à un non-sens politique d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appuyer l'économie internationale, ni même les échanges internationaux, sur un tel, sur un problème politique de cet ordre. Non.
Effectivement, la perspective de la Chine est de conquérir la part la plus importante possible du marché mondial et de conquérir une place au soleil à côté des autres grandes puissances.
Donc on ne peut pas dire que les pays pauvres ou les pays du tiers-monde soient des gentils.
La Chine comme telle n'est pas du tout un moteur pour le moment, et ça risque de durer.
Mais la Russie qui pèse aussi et qui essaye en ce moment d'utiliser l'arme énergétique, y compris l'arme politique et l'arme financière, n'est pas non plus un argument de poids dans votre argumentation.
Bon, je vous arrête là un instant, on marque une deuxième pause dans ce grand débat. Aujourd'hui, effectivement, les pays débiteurs deviennent créditeurs, mais il y a aussi une nouvelle concurrence pour les institutions type FMI et Banque mondiale, ce sont les fondations privées, par exemple la fondation Bill Gates, la moitié du capital souscrit par les 184 États actionnaires de la Banque mondiale, c'est l'équivalent des fonds aujourd'hui que possède la fondation. Bill Gates, ça n'est pas rien.
Dès 6h sur BFM Radio, premier levé, premier informé. Good Morning Business, la toute première édition écho du matin. Des points sur les principales places financières, l'ouverture de la Bourse de Paris, la presse écho passée en revue, l'actualité des entreprises, les témoignages et les avis des meilleurs experts. 6h-10h, Good Morning Business, l'info avec des idées claires. Good Morning Business, présenté par Stéphane Soumier, 6h-10h. Écoutez vibrer la planète écho sur BFM Radio.
Il est 10h45, vous écoutez BFM, la radio de l'écho. Les marchés, c'est avec Guillaume Sommerer.
Et c'est la baisse à Paris, le CAC 40 recule de 0,2%, actuellement 5663 points. Les investisseurs récupèrent une partie des gains accumulés hier en fin de séance. Ils prennent également la défensive avant la réunion demain de la Fed et de la BCE. Côté valeur, eh bien, l'automobile à la traîne, hein, Peugeot, lanterne rouge actuellement, moins 2,4%, 58 euros. Renault, deuxième plus forte baisse, moins 1,6 à 97,50 euros. Des prises de bénéfices sur ce secteur en forme depuis le début de l'année. Lanterne rouge du SRD cette fois, Trader Classified Media. Le titre recule actuellement de 7,2% à 13 centimes d'euros. Altran également recule de 2,4% à 5,70 euros. Les investisseurs sanctionnent toujours les résultats semestriels du groupe en innovation technologique. Également en repli, certaines foncières, Nexity notamment, moins 1,9% à 49,30 euros. Nexity donc un mouvement de consolidation sur l'ensemble du secteur après le rebond des derniers jours. Parmi les valeurs en hausse à présent, contre la tendance, eh bien on trouve Eramet, le titre progresse de 4,8%, 209,50 €. Le spécialiste des métaux non ferreux profite d'un relèvement de recommandations. Merrill Lynch est notamment passé à l'achat sur ce titre. Meilleure performance du CAC cette fois, Dexia, une banque, plus 2% à 21,30 €. Le CAC en repli donc de 0,2% actuellement. Le pétrole, lui, à 74,65 $ ce matin, le baril de WTI.
Un point bourse tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Quel avenir pour les jumelles de Bretton Woods qui ont vu le jour en juillet 44 au moment où Dominique Strauss-Kahn lorgne la tête du FMI? C'est le thème de notre débat aujourd'hui avec Anthony Bélanger, chef des informations au Courrier International, Patrick Messerlin, professeur d'économie à l'IEP Paris, bien sûr, Éric Toussaint, docteur en sciences politiques, président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors le FMI et la Banque mondiale ont vu le jour pour remédier aux conséquences économiques de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps symbole de l'ouverture des nations, aujourd'hui, les deux institutions sont bousculées par la mondialisation. Même eux-mêmes victimes de l'internationalisation qu'ils étaient censés promouvoir. On est au moment du débat avec deux points de vue. Le point de vue de l'émergence d'institutions régionales qui pourraient prendre le pas sur des institutions mondiales qui aujourd'hui sont un peu surannées, un peu poussiéreuses et difficiles à réformer, même si Dominique Strauss-Kahn veut être le candidat de la réforme. Et sur l'autre question qui serait effectivement de modifier les pondérations au sein du FMI pour savoir, pour avoir plus d'équité vis-à-vis des autres pays. Anthony Bélanger.
Non, ça se fera, la reconsidération des pondérations, ça se fera notamment aux dépens de l'Europe probablement, parce que les États-Unis effectivement auront du mal à laisser tomber leur veto, ou tout simplement à la modification du calcul d'une majorité. Il suffira de passer de 85 à 75, il suffira. Enfin, on souhaite à M. Strauss-Kahn bien du plaisir pour essayer de réformer ça effectivement, parce que le problème est, on l'a dit depuis le début, c'est la minorité de blocage des États-Unis. Cela dit, ça a un sens, la minorité de blocage des États-Unis. Les États-Unis restent tout de même la première économie du monde. Et puis, à la création du FMI en 1944, c'était eux qui gageaient les prêts du FMI sur leur propre monnaie. Donc, ils avaient une bonne raison d'avoir cette minorité de blocage. Voilà. Mais alors, ce qu'on pourrait par ailleurs dire, pour revenir simplement sur le cas sud-américain, c'est que le Venezuela non plus n'est pas innocent dans l'histoire. Enfin, après tout, il fait des tournées régionales. Monsieur Chavez, vous savez, le chéquier le plus rapide de la planète, en déboulant ses pétrodollars et en expliquant au fur et à mesure que c'est avec qu'il est là pour aider les pauvres. Oui, enfin bon, il les fait payer aussi ses pétrodollars. Et puis, même s'il les offre pas très cher. Et puis, il a un agenda politique derrière, qui est pas du tout un agenda économique, qui est absolument neutre. Il a un agenda politique, c'est clairement, il suffit de le lire. Il essaye de desserrer les taux américains sur l'Amérique du Sud. Ça, c'est sa vision à lui. Enfin bon, on peut pas dire non plus qu'innocemment, il s'en va créer un fonds régional. C'est pas Alice au Pays des Merveilles.
Patrick Messerin, allez-y.
Oui, je voudrais que, là, on a passé beaucoup de temps sur le politique. Je voudrais qu'on fasse un peu le fond économique de cette
affaire.
Il y a toujours des problèmes de taux de change. Donc le Fonds monétaire va toujours être un petit peu utile pour savoir ce qui en est. Ne serait-ce que pour dire, par exemple, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas de raison de penser que le yuan, la monnaie chinoise, est nécessairement sous-évalué. Donc, en fait, pour poser des questions et des doutes. Deux, le Fonds monétaire met l'accent sur les systèmes bancaires nationaux, parce que ce qui arrive dans les pays émergents, c'est que leur croissance arrive plus vite que la maturité de leur système bancaire. Et c'est de là que viennent les faillites et les crises que la Corée a connues et que peut-être la Chine va connaître. Trois, le Fonds monétaire est également un endroit où on peut discuter de structures qui sont très profondes, comme l'énorme capacité à épargner des Chinois, fantastique, 50% dit-on, à peine croyable, et l'énorme capacité à dépenser des Américains. Et ça, par définition, ça crée des distorsions d'une ampleur telle que le seul endroit où on peut en discuter, c'est un endroit mondial. Alors bien sûr, on peut parler de la supériorité ou de la suprématie américaine. Ça, effectivement, comme dit M. Bélanger, ça sera probablement résolu au détriment de l'Europe, qui est encore proportionnellement plus surreprésentée.
Alors, c'est là où on peut en parler, effectivement, Patrick Messerlin. Est-ce que, malgré tout, dans ce débat, le G8 ne pervertit pas un peu la situation, dans la mesure où le G8 a tendance à se considérer, à agir un peu comme un directoire de la planète, alors que ce n'est pas le rôle du G8, c'est éventuellement le rôle des Nations Unies. Est-ce que là, le G8, dans ces cas-là, n'a pas une... S'il n'y a pas une réforme du G8 qui doit s'accompagner d'une réforme du FMI.
Tout à fait, mais d'ailleurs, elle est en cours, cette réforme du G8. Déjà, dans les 3 ou 4 derniers G8, si mes souvenirs sont exacts, les Chinois ont été invités, les Indiens sont invités. Donc, on est déjà un G12 ou un G20.
Anthony Bélanger, je rappelle que
quelque chose là-dessus. Eric, on a Poussin. Parlé du chéquier de Hugo Chavez. Juste un mot. Vous savez très bien comme moi que les États-Unis, eux, viennent de annoncer qu'ils fournissent 30 milliards de dollars pour réarmer toute une série de pays de la région du Moyen-Orient et d'autres alliés.
On n'a jamais dit que Washington n'avait pas de chéquier.
Heureusement que Chavez ne distribue pas de l'argent pour le réarmement dans la région et qu'il essaye effectivement avec ses collègues des gouvernements
démocratiquement. Vous exagérez tout de même, il achète des armes.
De la Russie et de la Chine, s'il vous plaît, parlons un instant du Brésil, de Lula, élu démocratiquement, de l'Uruguay, de Tabaré Vázquez, le président élu démocratiquement, de Evo Morales, Rafael Correa.
De Monsieur Uribe, élu démocratiquement.
Ce sont Alors, parmi ces gouvernements, il y en a 7, et pour le moment, n'y participent pas la Colombie de Uribe, le Pérou de Alan Garcia, et le Chili de Bachelet, mais les autres pays d'Amérique du Sud participent à une discussion pour mettre en place une Banque du Sud et un fonds monétaire. Et une série
de
ces gouvernements
pays en Amérique du Sud,
ont repris le contrôle ou essayent de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. C'est absolument fondamental pour avoir des recettes fiscales suffisantes pour mener un autre type de politique celle qui est recommandée par le Fonds monétaire
international. Je m'oppose simplement Anthony à cette Bélanger. Présentation qui voudrait opposer les gentils sud-américains de Monsieur Venezuela, de Monsieur Chavez, d'une part, et d'autre part des 30 milliards. Je rappelle que Monsieur Chavez utilise une grande partie de ses ressources pétrolières pour acheter des armes et pas peu d'armes. Il en a acheté récemment en Espagne, il en achète régulièrement en Biélorussie. Il y va d'ailleurs, il fait de Monsieur Yukanovitch, vous savez, un de ses amis. Il va régulièrement en Iran et en Biélorussie, expliquant que la démocratie, j'imagine, parce que la démocratie biélorusse est bien connue des Européens. Bref, monsieur Chavez dépense énormément d'argent qui pourrait aller à autre chose, à acheter
faux.
Des armes.
C'est tout à fait faux ce que vous dites là. C'est complètement à côté de la réalité des montants réels. Je ne suis pas du tout un soutien acritique par rapport à Chavez. J'étais en train d'indiquer que lorsque je vous parle de Banque du Sud, vous me répondez au Fonds monétaire du Sud, vous me répondez la Chine et vous me répondez la Russie. Maintenant, j'indique que du côté de l'Amérique latine, des gouvernements démocratiquement élus essayent de mener une politique qui n'est pas du tout une politique d'armement de la région ou d'armement puissant de leur propre pays qui mettrait en danger les voisins, tandis que les États-Unis, eux, réarment systématiquement une série de pays. Nous en étions là et je disais, il est parfaitement intéressant de regarder ce qui se passe de ce côté-là et de voir comment les Nations Unies, parce que vous n'en dites rien du tout des Nations Unies, vous ne dites rien du tout du Conseil économique et social des Nations Unies.
On ne peut pas ouvrir tous les sujets, Éric Coussin.
Vous oubliez peut-être que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale devraient être et se comporter comme des agences spécialisées des Nations Unies et respecter leurs normes, ce que ces institutions ne font pas. Vous êtes en fait manifestement pour deux organes avec une distribution du pouvoir entre quelques grandes puissances où on va un tout petit peu repondérer en augmentant de quelques dixièmes de pourcent ou d'un pourcent des pays qui pèsent extrêmement peu comme la Chine, l'Inde ou la Russie, et ça ne servira à rien.
Éric Toussaint, on marque une... Enfin, on va en rester là parce qu'il nous reste très 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 peu de temps. En un mot, Patrick Messerlin, je vous donne le mot de la fin. Est-ce que justement, la solution, elle n'est pas visiblement en Amérique latine? En tout cas, le débat est colossal. La situation, elle n'est pas forcément en Chine. Effectivement, les relations avec la Chine ne sont pas toujours faciles et ne le seront pas. Est-ce que finalement, les fondations privées, telle la fondation Bill Gates, ne deviennent pas des alternatives? Et là, en un mot.
Certainement pas une alternative au Fonds monétaire international parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Une alternative intéressante pour certains objectifs de la Banque mondiale, comme par exemple la lutte pour la santé, et une meilleure santé, parce qu'elles sont plus rapides et plus indépendantes, effectivement, elles peuvent mieux fixer leurs propres objectifs. Ça, c'est sûr.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur le rôle du FMI et la Banque mondiale est en filigrane, même si on en a peu parlé. Merci Anthony Bélanger, chef des informations au Courrier international, Patrick Messerlin, professeur d'économie à l'IEP Paris, directeur du groupe d'économie mondiale, et Éric Poussin avec nous en ligne ce matin, docteur en sciences politiques, président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Il est l'auteur de Banque mondiale, le coup d'état permanent. C'est aux éditions Sileps, paru en juin 2006. Une chose est certaine, la réforme est essentielle. Vous restez avec nous, deuxième débat dans quelques instants. On va se pencher sur la finance aussi et la crise financière au travers des banques centrales. Vous savez, la BCE se prononce demain pour ou contre un statu quo, une hausse des taux, une baisse des taux. On en saura plus demain. En tout cas, on va se poser la question, que peut faire la Banque centrale européenne et que peut faire la Fed au moment où l'argent ne circule plus sur la planète ?